Bienvenue sur Atypique, le podcast où nous explorons le parcours unique de celles et ceux qui ont bravé les tempêtes pour devenir accompagnants. Des reconversions audacieuses aux défis surmontés, Atypique est fait pour inspirer, apprendre et évoluer ensemble. Dans cet épisode 10 d'Atypique, j'ai eu le plaisir de recevoir Stéphanie Hellou, thérapeute et psychotraumatologue spécialisée dans les difficultés de la périnatalité. Stéphanie et moi nous connaissons assez peu, mais on a toujours accroché, comme si on se reconnaissait quelque part. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais ça a toujours été là. J'ai toujours adoré son énergie, sa posture et sa détermination malgré les hauts et les bas, et c'est un plaisir de la recevoir. Stéphanie nous parle de son parcours, depuis l'organisation de festivals de musique dans des environnements politiquement chargés à thérapeute et formatrice spécialisée dans les difficultés de la périnatalité. Stéphanie raconte comment elle a dépassé son manque de légitimité, accepté ses différences et trouvé sa voie tout en surmontant les défis que représente le fait de naviguer dans les normes traditionnelles dans l'industrie de la thérapie, et tout en restant surtout fidèle à soi-même. Découvrez le parcours atypique de Stéphanie, qui, comme Coël Sénère et Isabelle Ablin, est plus qu'une collègue et une connaissance pour moi, une source d'inspiration, d'échange et de remise à question. Stéphanie est un rappel puissant de la beauté d'embrasser nos différences, de surmonter les défis, de trouver la force dans l'authenticité. Salut Stéphanie.
Salut Laurent. Ça va bien, ouais.
Ça me fait plaisir de t'avoir. On se connaît, mais pas plus que ça en vrai.
Ouais.
Même si on s'est pas mal parlé. Sur les réseaux, etc. Tu te présentes rapidement, d'où tu viens, ce que tu fais, où tu vas,
Alors, d'où je viens, ce que je fais, je vais commencer par me présenter. Donc moi, je suis Stéphanie, j'ai 45 ans, j'habite à côté de Toulouse. Côté perso, je suis maman de deux enfants, une qui est décédée pendant sa naissance et l'autre qui est vivant avec moi. Je le dis parce que c'est hyper important sur la suite aussi. Je suis thérapeute, psychotraumatologue. Moi, je suis spécialisée en psychotrauma et en périnatalité. Et j'ai un domaine d'expertise fort qui est l'accompagnement du deuil périnatal. Et je suis formatrice et superviseur sur ces sujets-là.
Ok.
En très court.
Et... Bon, c'est des sujets qui me touchent, moi. Voilà, ça commence, les trucs que je savais. Je sais pourquoi tu fais certaines choses, mais je n'avais pas forcément le détail. La question, elle est peut-être déjà répondue, comme on dirait, mais qu'est-ce qui fait que tu t'es levé le matin un jour et tu dis, tiens, je vais faire ça, c'est ton parcours, tu viens d'où, qu'est-ce que...
Ouais, alors il y a deux moments. Il y a vraiment deux trucs différents dans qu'est-ce qui fait que je me suis levé un jour. Le premier, qui est... pas hyper glorieux, pas particulièrement waouh. Moi, j'ai deux grandes vies professionnelles. En 2011, je suis rentrée en France, fin de ma première vie professionnelle où je bossais dans la culture. J'ai eu un vrai gros choc en rentrant en France, où je me suis dit, en fait, je peux pas du tout continuer à travailler dans la musique. Je suis pas du tout équipée pour... louvoyer dans le milieu politique de la musique, comme je le faisais depuis très longtemps à l'international. Et donc, je me suis demandé ce que je savais faire et si ça pouvait être un métier. Et moi, ce que je savais faire à l'époque, outre organiser des énormes événements dans des endroits dans lesquels il n'y avait rien, c'était... En fait, ce que je faisais avant, c'était organiser des festivals de musique dans des endroits qui avaient été soit abîmés par un événement climatique, soit par une guerre, ou alors en résistance. En fait, les collectivités locales voulaient résister à des prises politiques. Donc, c'était très engagé comme métier. Et on m'appelait pour former les gens sur place pour leur permettre de créer un festival de musique, de savoir comment faire une programmation, de payer des artistes internationaux, etc., etc., pour gagner de la visibilité. Donc, j'ai fait ça pendant 10 ans, 12 ans. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, mais je sais quoi faire d'autre. Et en fait, j'ai réalisé que je savais accompagner les gens, trouver dans des personnes un petit truc à dérouler. En fait, à l'époque, j'avais une image qui était une image de chimie, qui était le révélateur. J'avais vraiment l'impression d'être cette espèce de truc dans lequel on plonge un truc et ça le révèle. Et je me suis dit, mais c'est un métier, ça? Et donc, j'ai cherché et on m'a parlé du coaching professionnel. Et donc, je me suis formée au coaching professionnel. J'ai pris mon premier boulot salarié à ce moment-là pour payer mes formations. Parce que j'ai vu que le fil que je commençais à tirer allait être comment dire, long et coûteux. Et je me suis dit, bon, je vais prendre un boulot salarié. Et puis je vais voir si je peux être formée. Donc j'ai pris un boulot dans lequel j'étais coach de dirigeant. Ouais. Donc moi j'ai commencé ma carrière d'accompagnement en individuel en coachant des dirigeants d'énormes boîtes qui me prenaient moi. Et je me disais, mais pourquoi moi? En fait, j'ai pas du tout le profil des autres qui étaient généralement des mecs de 50 ans et moi j'en avais 35, un peu moins, j'en avais 32. J'avais pas du tout le même look que eux, vraiment j'étais très différente, mais c'était moi qu'on venait chercher. Donc là, je me suis formée au coaching, à l'approche systémique, à la psychothérapie interpersonnelle. Vraiment, j'ai fait ça et j'ai jamais vraiment été une très bonne coach professionnelle. Tout de suite, on est venu me chercher sur de la thérapie.
Ouais.
Les sujets qu'on m'amenait étaient vraiment des sujets intimes et notamment sur des accouchements traumatiques. C'est comme ça que j'ai fait la rencontre, moi, de la périnatalité.
Oui.
C'est parce qu'en fait, ça m'est arrivé en séance avec un premier coaching de dirigeante et je me suis dit, ah mais attends, j'y connais rien du tout, en fait, dans cet univers-là. Ça a l'air plus compliqué que ce que je pensais. Comment ça, c'est pas que de l'accompagnement des grossesses qui vont bien et parce qu'un de mes premiers coachings, c'était un accompagnement d'une dirigeante qui, depuis 30 ans, pensait qu'elle prenait uniquement de mauvaises décisions dès lors que la vie de ses salariés pouvait être impactée. Et quand je lui ai simplement demandé « mais qui s'est passé quoi il y a 30 ans ?», elle m'a dit « la naissance de mon fils ». Et donc, ouais. En fait, elle a été extrêmement marquée par la naissance de son fils. Et depuis, elle m'a dit avoir perdu énormément d'estime d'elle-même, de confiance en elle-même. Et c'était vraiment, vraiment très, très haute. Je suis arrivée pour la coacher, je suis arrivée en bas d'une tour de la défense et je suis allée tout en haut. Donc, Quand on connaît la hiérarchie des états, elle était très, très haut. Donc, elle avait une grosse carrière. Et ce truc-là, depuis 30 ans, qui lui pourrissait la vie, c'était il y a 10 ans. Enfin, il faut que j'arrête de dire il y a 10 ans, c'était il y a 13 ans. Donc, bon, voilà, ça, c'était le début. Très vite, j'ai vu que j'étais beaucoup plus sur la thérapie. Et puis, donc, j'ai quitté le salariat assez vite. Vraiment, je suis pas du tout employable et manageable comme personne. Donc, je me suis remise à mon compte comme j'étais très bien. J'ai continué à bosser beaucoup en périnatalité. C'était pas un choix, les gens venaient à moi, vraiment. Et puis, deuxième truc qui m'a fait me lever, donc j'ai perdu ma fille. J'ai arrêté mon activité. Parce que j'accompagnais beaucoup en périnat et je me suis dit c'est impossible pour moi d'accompagner des personnes qui sont en PMA, qui sont enceintes, alors que je sais ce qui peut arriver.
Ouais.
Je pouvais plus du tout faire ça. Et puis en plus je me disais, et si quelqu'un arrive avec une histoire qui ressemble à la mienne, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai complètement arrêté et j'ai lu absolument tout ce qui pouvait s'écrire sur le deuil périnatal à l'époque. Et on est en 2017 et il y avait quand même pas grand-chose en français de solide. Donc j'ai beaucoup lu en anglais à ce moment-là, ce qui m'a vraiment aidée. Et là, je me suis mise très en colère parce que je n'arrivais pas à trouver de psychologue, de psychiatre pour m'aider. À chaque fois, on me renvoyait... j'avais de la chance, qu'au moins j'étais tombée enceinte, que enfin des trucs qui étaient pas du tout en lien avec moi ce que je vivais. Et moi encore, j'arrivais à me défendre parce que j'avais une posture, j'avais des années de formation et de supervision derrière moi. Mon conjoint, lui, il s'est pris ça en rafale et parce qu'il vivait la même chose que moi. Et donc c'était très difficile. Donc moi, j'ai arrêté de me faire accompagner. Et j'ai bossé toute seule dans mon coin et j'ai eu la chance de rencontrer un psychiatre génial qui m'a pris en supervision et qui m'a dit « Ok, on va travailler différemment. » Et c'était un psychiatre spécialisé en périnat. Et donc là, il y a une colère qui s'est... Quand je l'ai rencontré, j'ai senti énormément de colère en moi contre tous les autres que j'avais rencontrés d'abord. Et ça, là, c'est vraiment le moment où je me suis levée, comme tu dis, parce que vraiment, je me suis dit, en fait, ça, c'est pas possible. On peut pas laisser des personnes qui vivent des trucs aussi durs uniquement avec des personnes qui savent pas de quoi elles parlent. Il faut qu'on sache, il faut qu'on connaisse la réalité sur le deuil périnatal, sur le psychotrauma en périnatalité, sur tout ce qui peut se réactiver, sur à quel point c'est compliqué. Et il y a une colère énorme, une révolte qui s'est lancée. Et là-dessus, là, oui, je me suis levée pour le coup. J'ai dépassé de grosses limites perso à ce moment-là.
Mais t'as réveillé moi j'appelle le guerrier de lumière, donc la guerrière qui... Ouais. Je dis souvent, les gens cherchent trop ce qui les met en joie, etc. j'en parle souvent dans les podcasts et ailleurs, mais d'aller chercher le contre quoi on lutte et qu'est-ce qu'on veut voir changer dans le monde. Et c'est une force motrice. Un sacré parcours, des trucs que je savais, d'autres que je ne savais pas, mais j'ai un milliard de questions qui me viennent autour de ça, mais comment t'as... C'est pas évident, t'es salarié, tu te retrouves à gérer des... Bon, t'avais une expérience avec l'événementiel, etc., mais en termes de... Un truc qui revient souvent, de posture, de légitimité, d'oser, dépasser les peurs, etc., je me dis, attends, moi, demain, tu me parachutes, à l'époque... Tu me parachutes coach de méga dirigeant dans une entreprise. Je sais pas, comment t'as géré ça? Comment tu l'as vécu? Est-ce que t'as eu la peur, de la trouille? Comment tu vois?
Ah bah, mon premier, où on m'envoie vraiment à la défense sur un appel d'offres, tu vas être on est trois sur la shortlist et il faut aller pitcher. Et moi, je sais pas ce que ça veut dire, pitcher, pourquoi moi? Enfin, en plus, moi, j'ai tendance à dire, non, mais les gens, ils choisissent, ils sont grands. On est trois, ils décident, en fait, ça va aller quand même, faire à leur place. Donc, j'avais vraiment ce truc-là. On m'envoie à la défense, je prends mon avion à 5h du matin, je suis éclatée, je dors pas de la nuit. Je sors sur le parvis, je cherche ma tour. Et là, mais vraiment, on est sur un choc de culture terrible. Je sors de 10 ans où j'ai vécu essentiellement... j'étais installée au Mali et ensuite au Maroc. Je voyageais beaucoup, mais j'étais installée là. Je débarque à Paris, sur le parvis de la Défense, au milieu de ces tours-là, à aller pitcher pour être prise comme coach. Donc oui, j'ai mon cœur qui bat à 1000 à l'heure, j'ai mal au ventre, j'ai envie de partir en pleurant. Et en même temps, je me dis, mais il va se passer quoi? Et donc j'arrive, et en fait, ça se passe super bien. Les gens sont hyper gentils. Et les deux seules personnes vraiment pas sympas sont les deux coachs en face de moi. Ouais. Qui sont vraiment très désagréables, mais tout le monde là-bas hyper gentil, et je sais pas pitcher, et la seule chose que je sais faire à ce moment-là, donc j'ai le cœur qui bat, je sais pas parler, enfin je sens bien que ça va être très compliqué pour moi de prendre la parole, parce que les deux autres, ils sont aguerris, ils sont installés, et moi je regarde, et en fait tout simplement je leur dis, mais pourquoi moi? Et j'étais très sincère, j'ai demandé pourquoi moi j'étais là, et ben j'ai gagné la boucle d'offre. Parce qu'en fait, elles m'ont dit, parce que vous êtes différente. Et ça nous a parlé. Et la personne que je devais coacher, c'est elle qui m'a choisie. Et elle m'a dit, vous avez l'air différente. Je pense que le problème que j'ai à résoudre aujourd'hui, il va pas se résoudre par les voies habituelles du coaching. Et sa chef me dit la même chose. Et je m'attendais vraiment à ce que c'était quoi le problème. Et en fait, c'était vraiment un truc très perso. C'est pour ça que j'ai jamais été une très bonne coach, parce qu'en fait, une très bonne coach professionnelle. C'est jamais sur la partie professionnelle qu'on est venu me chercher. C'est toujours sur ce qui se jouait de soi dans son métier.
Donc, qui dégage ça?
Qui agit?
Qu'est-ce qu'il y a chez toi qui fait, à ton avis, qui fait que on sent ça, qu'on vient de chercher sur quelque chose de plus personnel, plus thérapeutique?
Je pense que je dégage, j'ai une aura de certaine intensité. ça se sent, en fait. Il y a une intensité en permanence. Je me balade avec ma boule d'intensité.
Ouais, mais elle vient d'où?
Comment?
Elle vient d'où?
Oh, bah, de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai dépassé, de ce truc. J'ai un truc en moi qui est, je refuse d'être identifiée par ce que je vis. C'est-à-dire que tout ce que j'ai traversé, et j'en ai traversé un peu, je veux pas que ça soit ça qui soit vu de moi. C'est pas ça qui m'a aidée, c'était ce que j'en faisais, comment je le transformais, comment je m'en sortais. C'est ça, en fait, je pense, qui a généré cette intensité. Je sais pas si c'est très clair comme réponse.
Oui. Ouais. Je pense qu'il y a un peu autre chose, mais ok. Bon, c'était... Ton point de vue, ton regard, c'est plus difficile d'avoir un regard sur soi que les autres sont souvent plus justes dans cette perception de ce qu'on dégage. C'est un biais cognitif, mais c'est difficile de dire qu'est-ce qui fait que les gens sont attirés par moi, tu vois.
Donc,
mais je me souviens, c'est des discussions qu'on a pu avoir aussi. Quand je raconte ton histoire, je me dis qu'est-ce que tu venais faire dans mes co-visions, tu vois. Donc, mais bon, bref, passons. Et est-ce que t'as Quelles difficultés t'as rencontré justement quand t'es repassé indépendant, que t'as décidé de te mettre à ton propre compte, l'accompagnement, à devenir formatrice sur la périnatalité, etc. S'il y a des choses qui t'ont, que t'as trouvé plus difficiles que quand t'étais salarié ou dans d'autres domaines, comment t'as vécu ça?
Alors, moi, j'ai toujours été indé. J'ai été salarié 1 an et demi, 2 ans. Donc vraiment, ça, et c'était pour payer mes formations en plus. Mais avant, c'était quand même très sécurisé, c'est-à-dire que j'étais sur des missions qui étaient longues. Donc en gros, je faisais ce que je voulais, j'étais en roue libre, mais je savais que pendant 1 an et demi, j'étais à tel endroit. Pendant 1 an, j'étais à tel endroit. Donc c'est pas la même chose que au début être thérapeute et puis ensuite être chef d'entreprise indépendante. Quand je me suis vraiment mise à mon compte toute seule à dépendre au début d'un nombre de séances, ça a pas été très dur pour moi. J'ai bien compris que pour avoir du monde, bah, il fallait qu'on me connaisse. Je me suis mise partout, j'ai fait plein d'ateliers, j'ai fait des conférences. Ça, c'était pas très compliqué. Ce qui a été difficile, ça a été de dimensionner mon activité. Ça a été, quand je me suis levée contre là, ça a été comment est-ce que je peux... Ça a été la légitimité là-dessus. Comment est-ce que je peux mener... j'ai une image d'armée. Comment je peux mener
un combat, ouais.
Voilà, j'ai vraiment ce truc-là et je pense que c'est de t'avoir en face qui biaise fortement l'image que j'ai en tête. Mais comment je peux mener mon chemin là avec toutes ces personnes que je suis en train d'entraîner alors que je suis pas psychiatre, alors que je suis pas psychologue. J'avais ce truc-là et... Je m'y retrouve régulièrement confrontée, mais pas parce que ça m'est renvoyé, hein, parce que moi, par rapport à moi. Parce qu'en fait, je forme beaucoup de monde dans le milieu médical, et personne n'est dérangé. Hein. Ça pose de soucis à personne. Ma connaissance, mon expérience remplace...
Oui, souvent, c'est nous, avec nous.
Donc, je pense que c'est ça. C'est vraiment ma légitimité perso. Pas par rapport aux autres, mais par rapport à moi. Ce truc-là, C'est le truc qui me fait le plus bosser, en fait, dans la vie. Je me sens jamais bonne dans ce que je fais.
Oui, ce qui est un truc qui revient souvent dans la plupart des podcasts que j'ai déjà fait, et puis dans les coachings, les discussions même qu'on a pu avoir tous les deux. Justement, comment tu le... Parce qu'il y a ceux qui le ressentent et qui font rien, et puis qu'il y a ceux qui le ressentent, mais qui font quand même.
Ah oui. Ah bah, je fais.
Ouais.
Ouais.
Comment tu fais ça?
Alors maintenant, un peu plus tranquillement, je vais identifier ce qui s'active chez moi. C'est quoi le problème? C'est vraiment quoi? Est-ce que vraiment je suis en train de parler d'un sujet que je connais pas très bien et j'ai fait que le survoler, ce qui est possible. Et quand c'est oui, ben du coup la solution elle est assez simple, c'est va creuser. Et puis, quand t'as creusé, ça ira mieux. Et quand c'est ça, en général, ça va mieux. L'autre, c'est plus... Ben, du coup, des choses... Des échos de perso, des choses qui vont s'activer personnellement, des enjeux personnels, je vais dire, qui vont se manifester dans mon activité professionnelle. Et là, maintenant, j'arrive à séparer en disant, OK, ça, c'est ta vie perso, donc tu vas y prêter attention tout de suite. Par contre, professionnellement, tu n'es pas obligé de lancer un nouveau programme. C'est ce que je dis souvent aux personnes que je forme. Pendant longtemps, mon truc, c'était dès que je m'agitais, je lançais un nouveau programme. Donc, je me mettais encore plus dans le rouge. C'était vraiment une fuite en avant. Plus je me sentais illégitime, plus je sortais un nouveau truc. Ça, j'ai complètement arrêté de le faire. Voire même, quand je sens que je doute de ma légitimité, je ralentis encore plus. Je reste sur ce que je fais, je vais reposer des bases, je travaille, je prends un papier, un crayon, un tableau, je retravaille ce que je mets dans mes contenus. Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est pertinent? Je demande aux personnes, parce qu'en fait, j'ai des gens que j'accompagne beaucoup et je leur demande leur avis. Et je le reçois, je l'écoute.
Alors... Il y a une question qui me vient parce que tu parlais du perso. Est-ce que vous avez vécu dans votre couple avec la perte, etc. Est-ce que tu as attendu de résoudre ça à un niveau perso pour devenir formatrice là-dessus. Comment ça s'est... Comment t'as géré ça? Parce que c'est pas toujours évident. On est souvent bon sur les endroits où on a vécu quelque chose et puis on veut défendre, comme toi, avec ce combat que tu mènes, mais... C'est le temps de latence qu'il y a eu entre le trauma et le...
J'aurais été incapable d'accompagner des personnes touchées par la même chose en même temps que moi, j'étais dans le sombre de mon deuil, et j'aurais été incapable d'en parler, de former. C'était beaucoup trop dur. Enfin, c'est horrible. C'est même pas un tsunami. Enfin, j'ai pris une charge terrible, en fait. Donc, c'était incapable d'en parler, de faire quoi que ce soit, alors qu'aujourd'hui, je peux vraiment en parler n'importe quand. Donc, ouais, il y a vraiment eu un tas de latence. Il y a eu la première année où j'ai fait que me former. Je me formais parce qu'en fait, mon cerveau, c'est mon levier à moi. Hein. Je vais me former sur n'importe quoi. Je suis devenue hyper bonne en jardinage. Je me formais sur 1000 trucs. Je suis devenue super bonne. Je suis la meilleure comportementaliste félin de France parce qu'en fait, j'ai fait ça pendant un an. Je bossais. Je faisais des trucs très généralistes dans mon cabinet. Et à côté de ça, j'apprenais 1000 choses. Donc ça, c'était ma thérapie à moi. Et puis, au bout d'un peu plus d'un an, c'est là que j'ai rencontré, parce que je voyais bien que en cabinet, j'avais dit, je refuse, je ne veux pas accompagner des situations de périnatalité. Donc, c'était marqué sur mon site internet, et je disais que j'accompagnais hypersensibilité, je sais plus quoi, bref. Et en fait, les gens prenez rendez-vous sur des sujets et venez avec des situations de périnat et généralement d'accouchement traumatique ou de deuil périnatal. Je n'avais jamais eu de deuil périnatal avant de perdre ma fille. J'avais eu des arrêts précoces de grossesse, mais des situations extrêmement intenses d'arrêt précoce de grossesse ou arrêt plus tardif de grossesse, je n'avais jamais eu. Donc là, ça commence à arriver alors que c'est marqué « je veux pas ». Et donc, vraiment au bout d'un an et demi, je me suis dit « il faut que tu trouves vraiment quelqu'un pour t'aider » parce que je sentais que j'avais envie que les thérapeutes bossent mieux, mais que moi, je n'étais pas du tout en capacité de le faire. Et c'est là que j'ai cherché, j'ai eu la chance de tomber vraiment sur ce psychiatre qui m'a aidée. Donc là, on est quoi ? On est en 2018. Il m'a vraiment aidée pendant un an. Il ne m'a pas lâchée. Hein. On était en accompagnement tout le temps. Hein. J'ai recommencé à être à l'aise fin 2018. Sur les accompagnements périnates. En 2019, une grosse partie de ma clientèle était déjà sur uniquement du trauma de la périnatalité. Et en 2020, j'ai fait une complète bascule. Je suis passée de généraliste à 100% périnate, difficulté, et petit à petit. Et aujourd'hui, je n'accompagne, parce que je suis aussi thérapeute, c'est-à-dire que j'ai une activité de thérapie, j'accompagne que des parents endeuillés. Deux jours par semaine, deux jours complets par semaine. Ah. Donc, j'ai fait ça en gros comme bascule, mais avec beaucoup d'accompagnement. Et il a fallu vraiment séparer pour bien... Au début, j'ai voulu séparer, mais ça ne marche pas de séparer. En fait, c'était vraiment de traiter personnellement comment j'allais. Ça pouvait être quoi les échos professionnels, comment je pouvais identifier. Au début, c'était des barrières. J'avais mis des identifiants et puis petit à petit j'ai vu qu'en fait elles sautaient, ces barrières, elles étaient plus j'avais plus peur, j'avais bien vu qu'en fait toutes les histoires seront différentes, moi j'allais vraiment mieux et j'ai commencé mes formations en 2022.
Comment t'expliques malgré le fait qu'il y ait sur ton site j'accompagne pas en périnatalité, que c'est pas ce que tu voulais faire, que les gens venaient te chercher quand même à cet endroit-là. T'expliques ça comment, toi ? Quoi, tes croyances, ta vision par rapport à ça ?
J'ai un truc purement matériel qui est que, en fait, mon histoire à Toulouse, c'est petit et c'est très grand. Donc, en fait, mon histoire à Toulouse, elle a été tellement particulière qu'il y a beaucoup de monde dans le milieu médical qui en a entendu parler. Et il y a des personnes qui m'ont suivie médicalement et elles m'ont envoyé des gens très très vite. Je l'ai su parce que en fait, les clientes qui venaient me disaient « je viens de vous voir de la part de madame qui est sage-femme, je viens vous voir de la part de madame qui est anesthésiste ». En fait, j'avais des gens qui venaient et je voyais bien d'où elles venaient. Donc ça, c'est très... concret. Mmh. Va la voir, je pense qu'elle, elle peut t'aider. Voilà, il y avait ça. Et l'autre, je me l'explique pas matériellement. Je sais pas l'expliquer. Je sais que très vite, il y a eu du bouche à oreille et les personnes disaient, elle dit qu'elle veut pas le faire, mais moi, elle m'a vraiment aidée. Mais il y a eu ce moment-là que je m'explique pas, qui est, il y a marqué, j'accompagne pas les situations de périnat. Personne sait que j'accompagne quand même des situations de périnat et elles arrivent quand même. Ça, je ne l'explique pas et je sais pas l'expliquer. Peut-être que ça fait écho à la même chose que ce que tu disais, ce que tu voyais tout à l'heure quand tu m'as dit, ok.
Ouais. T'as pas envie d'être vu pour ce que t'as vécu, mais comment tu l'as dépassé, je sais plus comment ouais. tu l'as formulé tout à l'heure, mais je trouve que c'était intéressant comme point de vue de, tu choisis ce que tu dégages, tu vois. Et moi, je pense que la première fois que je t'ai vu, j'ai accroché tout de suite parce qu'il y a cette énergie que tu dégages qui est, moi, avec mes mots, c'est, t'es pas dans, il y a pas cette plainte, il y a pas ce, regardez ce que j'ai vécu, c'est difficile, toi, il y a vraiment ce truc de présence rassurante, tu vois. Enfin, je fais des compliments, c'est pas le but, mais c'est ouais. Parce que je pense que c'est ce qui manque à beaucoup de gens qui sont dans l'accompagnement et même en général dans la vie, de choisir ce qu'ils incarnent et est-ce qu'on décide de dégager. Et moi, souvent, quand je vais pas bien, quand je suis un peu déprimé, que j'en ai un peu marre, machin, si je me repose cette question, je dis, mais en fait, j'incarne quoi? J'incarne le mec dans la plainte, machin, qui est jamais content. Alors que ça va, j'ai une bonne vie, tu vois, on a vécu des trucs et tout, tous, un chacun, mais cette question, cette décision de qu'est-ce qu'on incarne et ce à quoi on croit, et je pense que même si c'est pas vrai, même si c'est potentiellement pas vrai, pour le formuler comme ça, ouais. Je pense que chouette, et je pense que c'est ce qui fait aussi que les gens sont venus te chercher sur ça. Parce que c'est, ça, à un moment donné, il y a un truc, moi je pense qu'on est tous très très bons à la première impression. J'en parle dans une formation, là. Ce premier feeling qui dégage tout de suite, et on se prend la tête à écrire, à se décrire, à essayer de se vendre, tout ce que tu veux, mais là, ce pourquoi les gens ils viennent nous chercher, là je parle un peu tout seul, mais c'est pour ça que je dis souvent, poser cette question à vos amis, c'est pourquoi on est amis? Qu'est-ce que t'es venu chercher chez moi? Et moi, si je partage ça, c'est tous les amis viennent dire, parce que bah, c'est vrai, tu dis les choses, il n'y a pas de... Ce qui est aussi un inconvénient parfois, mais. Et c'est aussi ce que viennent les chercher les gens. Donc, c'est forcément derrière, c'est un signe, tu vois, de là où on devrait aller, quoi. Et enfin, bref.
Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ce truc de choix. Je me rappelle le jour où j'ai pris cette décision.
Oui.
J'étais hyper jeune et c'était un choix. Et je suis sûre, ben ça, forcément, mon cerveau, il réécrit le truc. Mais, ok, je me dis, l'histoire que je me raconte.
Côté rationnel.
Petit côté rationnel, toujours quand même, hein. C'est pas, ça peut pas non plus être. Je sais que ce jour-là, j'aurais pu prendre une autre direction. J'aurais pu dire, en toute légitimité. Et une cliente me le dirait, je dirais, mais attends, c'est hyper légitime que tu aies pris l'autre option. Mais moi, ce jour-là, j'ai fait, en fait, non. Et souvent, tu dis, il y a des personnes qui se construisent dans l'opposition. Enfin, moi, je suis l'archétype de la personne construite dans l'opposition. Enfin, c'est depuis toujours. Moi, je m'appuie et je pousse. C'est vraiment un...
Ouais, bah, je suis comme ça aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le mettent de côté parce que c'est pas très vendeur de parler de ça. Mais je pense qu'une grosse partie des gens devraient aller chercher cette opposition-là. Ce que tu dis sur la prise de décision, c'est... Ah, c'est souvent, on va regarder sa vie, on dit, tiens, qu'est-ce que j'ai vécu, l'histoire qu'on se raconte, qui est longue, qui est compliquée, machin. Alors que souvent, le switch, le point de bascule, il est sur une micro-décision. Micro. On s'entend quand je dis ça, mais c'est un instant très, très court qui définit qui on a choisi d'être. Et, voilà. Et tout à l'heure, au tout début, tu parlais aussi de quand on t'a choisi pour les coachings, là, tu as dit, parce que vous êtes différentes.
Ouais.
Et je pense qu'il y a cette énergie-là aussi, qui est marrant parce que le nom du podcast s'appelle Atypique, puis moi j'avais écrit un article « Oh tiens, une extraterrestre », puis on avait échangé un petit peu là-dessus, ouais. Sentiment de venir d'une autre planète, etc. Et est-ce que toi, cette différence, c'est quelque chose dont t'as conscience, t'as toujours eu, qui n'est pas que la différence, je ne suis pas comme les autres en termes de pitch, toi, mais en termes d'énergie, de qu'est-ce que tu penses de ça, quel regard t'as là-dessus, sur le tien, et puis en général?
Ah, mais je me suis toujours sentie Alors, au début, je le disais pas à ma place, et ensuite, toujours pareil, vouloir reprendre le pouvoir sur ce que je vis différente. Hop là, c'était voilà. Quand j'étais gamine, j'avais l'impression que j'étais pas née à la bonne époque. Ça a d'ailleurs généré énormément d'ouverture en moi pour aller chercher dans des univers ailleurs ce qui me nourrissait. Pas là dans la même époque, pas au bon endroit, vraiment à côté de ce que les autres vivaient. Et puis j'ai fini par comprendre que je comprenais pas les gens. Moi, gamine, je comprenais pas les gens. Je comprenais pas pourquoi les gens faisaient ça, pourquoi ils réagissaient comme ça. Ça me paraissait toujours très bizarre. Et j'ai commencé super tôt à analyser les gens, à être curieuse des gens pour comprendre comment ils fonctionnaient. Du coup, mécanisme d'adaptation très fort pour savoir comment moi j'allais me positionner pour répondre à ce que je pensais qu'on attendait de moi. Donc ça a été la première partie du truc. Mais le bon côté de la pièce, c'est que tout de suite, ça m'a rendu... mais vraiment très très tôt, ça m'a rendue extrêmement attentive à tous les micro-signes chez les gens. Et si je suis devenue thérapeute plus tard, c'est parce que je suis très très bonne dans mon métier, je crois, en fait, à repérer ça, à parler des gens, à leur dire, en fait, ça se voit qui tu es. Oui. Et c'est OK. Très tôt, parce qu'en fait, je l'ai appris très tôt. Donc, cette sensation de différence, elle m'a amenée à ça. Par contre, après, c'était compliqué. Ouais, tu vois, je repense à ta question de tout à l'heure à laquelle j'ai pas su bien répondre. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, en gros, si je résume? Le plus difficile pour moi, quand je me suis dimensionnée, ça a été de retrouver un lien avec les gens, alors que vraiment, je suis très différente. Ouais. Comment je jouais avec les mêmes cartes, avec les mêmes règles du jeu, un jeu que, depuis toujours, je mène avec mes règles du jeu. Voilà, ça c'est le plus difficile au quotidien, en fait. Je suis obligée de dealer avec des trucs nécessaires. Et pour ça, je suis tout le temps en train de... OK, il faut que je comprenne ce truc nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Je parle par exemple du marketing, tout simplement. Hein, mais quand même, je suis formatrice, je vends des formations, je dois faire du marketing et c'est OK pour moi. Mais comment est-ce que ce marketing, je peux le faire à ma manière, à moi? Si je sens un grand mot, je peux ressortir l'éthique, hein, c'est très fort pour moi. Et donc, toujours avoir cette sensation de respecter mes règles à moi, tout en acceptant les règles du monde. Enfin, c'est vraiment ce truc-là.
Ouais, qui n'est pas facile au quotidien. Et c'est marrant ce que tu dis, respecter mes règles à moi. Et c'est pareil, ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait développer un peu plus. Je dis, si on n'a pas conscience des règles du jeu qu'on joue, on les subit. Mmh. Tu vois? Et donc, pour ça, j'avais écrit des articles là-dessus qui parlaient de se poser, d'écrire ses principes de vie. Ce sont des petits principes qui tiennent ses propres règles du jeu, en fait. Celles qui peuvent être des rappels et des guides, celles qui sont des choses auxquelles on croit, et puis se rendre compte qu'il y en a qui ne nous conviennent pas. Et donc, de définir ses propres règles du jeu. Et après, ouais, la difficulté, c'est ce que tu dis, c'est. Moi, je vois qu'il y a des règles du jeu que j'aime bien, mais qui me posent problème dans ce que tu décris, cette interaction avec le monde. Un truc dont je parle, j'ai même écrit des articles là-dessus sur l'anti-stupidité. En fait, c'est con, parce que ça pose plus de problèmes que de... J'aime bien la règle. Faire un monde meilleur, j'en ai un peu marre de ce truc du surconsommable, du rapide, du machin, etc. Mais ça génère chez moi trop de réactions. Je suis comme toi, je réagis beaucoup en réaction, en contre. Mais ça en génère trop, parce qu'il y a plein de trucs qui m'énervent. Mais en fait, que je vais chercher moi-même, je dérive, mais c'est pas grave, en étant sur les réseaux, en machin. En fait, c'est comme si j'allais chercher un truc qui me rassure dans cette propre règle. Et à la fin, à quel moment cette règle, elle devient pas une façon d'exister, de dire « ouais, moi je suis pas comme les autres, je suis différent ». Et donc d'entretenir cette différence, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je le vois
et,
tout à fait.
Et là, depuis pas très longtemps, je me dis en fait, il y a un problème à cet endroit-là de continuer d'exister en n'étant pas comme les autres, alors qu'on est tous différents à notre façon, tu vois. Ouais. Et comment servir ça? Et je pense, moi, ma réponse, c'est d'aller là où les gens viennent nous chercher, sans se poser plus de questions que ça. Alors, pour que les gens viennent nous chercher, il faut se montrer un minimum, tu vois. Mais j'ai un peu dérivé, mais comme c'est un sujet qui me questionne, moi, depuis un moment, et puis qui me questionne depuis que je suis tout petit, un peu comme toi, c'est comment faire sa place là-dedans. Vas-y.
Tu vois, il y a un truc là, qui me vient, C'est une discussion qu'on a eue il y a quelques temps où tu m'as dit un truc sur la différence, sur le fait que effectivement ça se percevait cette différence. Et à ce moment-là, bah, je t'ai souvent remercié de ce moment-là. Et à ce moment-là, vraiment, j'ai ressenti énormément de gratitude du fait que tu me l'aies posé, mais simplement comme factuel, rien de plus que ça en fait. C'est juste, ok, c'est comme ça. Et de la gratitude. Je pense que je t'ai jamais dit la suite. Il y a eu vraiment de la gratitude du fait de, je te vois là, ce truc-là, ça se voit, je te vois. Et ce que ça a déclenché en moi, c'est, ok, mais en fait, c'est pas si important que ça. Mm. Et de lâcher la pression. Sur et ça me fait penser à ça quand tu dis cette différence, est-ce qu'à un moment c'est pas une posture, est-ce que je suis pas enfermée dans ce truc là de, en fait le fait que tu me dis ça a relâché énormément de pression chez moi, comme si bah le fait d'être vu c'était pas si grave et que c'était ok et qu'en fait on s'en fout et qu'en fait on s'en fout d'être différent. Et
oui,
ça
je pense
fait
que...
un bien dingue ce truc là ça a été ok, bon bah en fait on s'en fout.
Je pense que tout le monde s'en fout. Mais un des pièges quand on est indépendant, que moi j'ai vécu, que d'autres vivent aussi dans ceux que je connais qui sont entrepreneurs, alors plus dans ce qui est formation, communication, etc., que juste l'individuel, juste au sens, c'est pas les mêmes enjeux de marketing, c'est les biais du marketing. Justement, j'en parlais avec je sais plus qui dans un des podcasts. Où on dit sans arrêt, c'est quoi ton angle, c'est quoi ta différence, et tu vois, et pour des profils qui sont un peu comme nous, qui sont déjà un peu différents, moi je me rends compte que quand j'ai lancé Hypnotion au départ, c'était pas une question, cette différence, on va rien à foutre, moi j'aime bien partager, donner des trucs, apprendre plein de machins compliqués et de les ressortir en un article de pages, et tu vois, je me posais pas cette question-là. Mais elle est venue s'empiler avec la com, le positionnement, trouver cette différence, c'est quoi ton angle, machin, et je pense que les biais du marketing et de la com, ils sont plus là que dans se vendre. C'est d'attention à pas renforcer des structures qui sont déjà présentes, tu vois. Là, je dis ça à voix haute parce que c'est pas un truc sur lequel j'avais réfléchi plus que ça. Mais là, moi, je me dis, attends, comment rester dans cette com que je trouve, toi, tu fais plutôt bien, t'es assez distante des réseaux, il y a des trucs que tu délègues, etc. En gardant la différence qui est pure, au sens je suis comme je suis et c'est pas grave et c'est pas important, mais pas être renforcé dans trouver son nom, cette posture, machin. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Tout à fait. Il y a un intervenant que j'ai entendu il y a quelques temps sur un gros événement pro, là, qui disait. En fait, il a dit un truc assez basique. Et moi, qui m'a fait beaucoup de bien, en fait, il disait, mais si vous voulez vendre en parlant aux gens, c'est très bien, en fait. C'est une très bonne stratégie marketing. Et on était vraiment dans un événement plutôt marketing digital, avec toutes ces règles-là du marketing connues dans les infopreneurs. Et il a amené un truc qui est... si je pouvais faire uniquement, de temps en temps, un webinaire gratuit... tu vois, mon rêve de com, c'est tous les mois ou tous les mois et demi, je fais un webinaire gratuit où je parle d'un sujet que je connais par cœur, il y a des gens qui viennent, et c'est ce que je suis en train de lancer. Moi, ça me va en termes de com, en fait, je suis hyper heureuse. Je parle avec des gens d'un sujet qui me passionne. Pendant une heure et demie, on me pose des questions, j'apprends des trucs aux gens. Et en fait, je sais que quand je fais ça, en plus, ça marche. Parce qu'on me connaît mieux, du coup, on a moins peur de venir glisser sur « est-ce que je vais me former avec cette nana que je connais pas sur des sujets hyper touchy quand même ?» Et je trouve que s'autoriser à avoir envie de réfléchir différemment tout en acceptant les règles du jeu et pas forcément en résistance, ça donne de la créativité, en fait.
Ouais, non, c'est des vrais sujets de pas tomber dans la... cultiver sa différence pour de mauvaises raisons.
Ouais.
Et je pense, comme tu dis, comme on avait évoqué, ça se voit et tu vois, on s'en fout.
Et on s'en fout.
D'ailleurs, c'est pour ça que les gens viennent te voir. D'ailleurs, tu l'as dit là, tu vois. C'est...
Ouais.
Donc, de reconnecter un peu les pièces du puzzle et puis de lâcher prise là-dessus. Ça me fait réfléchir. J'ai l'intérêt de ce podcast.
Et ça donne beaucoup d'air.
Ouais, c'est... Je suis parti pour écrire plein de trucs. Donc
génial.
Mais
c'est trop bien de discuter comme ça. Ça donne mille idées.
Ouais. Une question que je pose dans tous les podcasts, c'est si tu pouvais avoir un gigantesque panneau d'affichage, n'importe où, avec n'importe quoi écrit dessus, qui parlerait au monde, aux gens qui le voient, il y aurait écrit quoi dessus, puis il y aurait quoi dessus, et pourquoi?
Ok, en fait, j'ai eu une réponse et en même temps, il y a un truc qui s'est passé dans ma tête. Je pense que je l'ai eu, le panneau d'affichage, parce qu'à côté de moi, là, on est dans mon cabinet, vu qu'on est en podcast, on est dans mon cabinet, il y a une fenêtre à côté de moi. Et la fenêtre, c'est un miroir, elle donne dans la rue. À côté de chez moi, il y a un barbier qui prend beaucoup de monde sans rendez-vous. Et donc, les personnes attendent à côté du barbier qui est de la place. Et donc, ils attendent généralement devant ma fenêtre, qui est un miroir. Et donc, ils passent leur temps à se recoiffer, téléphoner à quelqu'un. Et donc, moi, j'ai des séances quand même. Et donc, au début, je sortais en disant « Hey, je suis en séance. » Puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre de sortir et j'ai écrit un truc. Et je me rends compte, là, maintenant, de ce que j'ai écrit, de ce que ça a généré et par rapport à tout ce que je viens de dire, à quel point c'est fort. J'ai marqué « Je te vois. »
C'est bon, ça.
Ouais. Avec un dessin, parce que mon conjoint est illustrateur, donc il m'avait fait un truc un peu chouette, ça faisait vraiment un joli panneau. Et en fait, j'ai enlevé le panneau, parce qu'à chaque fois que je sortais ramener quelqu'un à la porte, les mecs, ils m'attendaient, ils me disaient « Mais tu me vois comment ?»
ouais.
Et le « comment », je trouvais ça génial, parce qu'en fait, eux, ils me disaient « Mais attends, c'est un miroir, il y a un mur, enfin, il y a un truc derrière. » Non, non, c'est une fenêtre. Mais moi, je suis... Et en fait, ils me demandaient un truc très matériel, et moi, à chaque fois, j'avais... Bah forcément, quand quelqu'un vient en totale détente se recoiffer devant ton miroir, tu vois 1000 trucs de la personne. Et en fait, je me rends compte maintenant que ce panneau d'affichage, je l'ai eu sur ma fenêtre pendant un moment. Donc, je pense que j'écrirai « Je te vois »,« On est là ».«
Je te vois » comme dans Avatar. «
T'es pas seul ». Je pense que j'écrirai un truc comme ça.
T'as vu Avatar ?
Ouais.
Il dit « Je te vois ». I see you.
Ouais.
Okay. Très profond, mine de rien.
Je pense que j'écrirai un truc comme ça. Ouais. C'est exactement ça, hein.
Ça résume bien l'échange qu'on a eu. C'est marrant parce que moi, ça me fait penser, quand je faisais l'install et je disais aux gens, moi j'ai un œil de bœuf, un Judas, là, quand j'avais mon cabinet. Et je regardais toujours les gens arriver. Parce que les gens se recoiffent, ils se rhabillent, machin, les gens qui sont stressés, qui ont peur, qui prennent une grande inspiration. Et en fait, t'as tout la personne dans ce moment d'intimité où on croit qu'on est seul. Et c'est pas mal, je pense, de se reconnecter à ces moments où on croit qu'on est seul et où on ne l'est pas. De réussir à se voir, c'est plus difficile quand on se regarde dans le miroir soi-même. Mais
quand il y a quelqu'un, si notre miroir il pouvait parler, qu'est-ce qu'il raconterait?
Et puis ça résume un peu l'échange qu'on avait eu à l'époque où je t'avais dit, en fait, on te voit. Tu vois,
c'est, tout à fait.
Essayer de cacher un truc que tout le monde voit et qu'on vient chercher en plus.
Arrête, donc, parce que tu vas gagner de l'énergie en arrêtant de faire ce truc-là. Hein.
Et je pense que c'est vrai pour tout le monde. Mais c'est pas toujours facile d'accepter ce que les gens voient. Donc il y a tout cet espace d'exploration personnelle qu'on fait tous plus ou moins des moments différents de notre vie. Il y en a que ça commence tôt, il y en a que ça commence plus tard. Moi, je vois, avant la perte du bébé, c'est des sujets, j'en ai rien à foutre. Tu vois, je me posais pas la question, je lui dis, vous allez con avec les potes, je joue au golf. Il faut qu'il y ait des... C'est des sujets qui m'intéressaient, mais en sous-texte assez lointain, bien rangé sous le tapis. Et puis bon, c'est la vie, c'est comme ça. Bref, c'était c'est chouette de t'avoir.
Ouais.
J'ai un milliard de questions à te poser, mais qui sont pas forcément plus personnelles, qui n'ont pas forcément la place dans ce podcast, mais je pense qu'on devrait échanger plus souvent. On était toujours très occupé.
Ouais, mais je m'organise pour relâcher un peu ce temps-là.
Ouais. Parce que t'as envie de terminer notre échange en disant quelque chose d'autre à ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, peut-être, ou rien, t'es pas obligé.
Waouh. Je repense à un truc que je t'ai dit juste avant qu'on lance l'enregistrement, moi, ce qui me plaît là dans ton podcast, c'est que c'est des discussions de type rencontre. En fait, c'est comme si on se rencontrait. Et du coup, on discute et c'est vraiment super de proposer cette, euh, cet espace-là. Moi, on me pose pas toujours, on me pose pas ces questions-là. En fait, on me demande comment je travaille, qui j'accompagne, qu'est-ce qu'il faut faire pour. Enfin voilà, c'est hyper technique. Et de d'où ça vient, pourquoi, qui t'a touche. Donc cet espace-là, il est hyper rare et du coup, je le trouve super précieux. Et je pense que ce que j'ai envie de dire déjà, c'est merci de l'avoir ouvert, vraiment. Et pour les personnes qui écoutent, c'est d'écouter tout ce qui fait écho dedans et de le prendre en fait. On n'est pas seul. En fait, on n'est pas seul. On est là, on est plein. Et là, il y a plein de personnes différentes qui font, je sais pas, une espèce de cercle. Oui, il y a un truc un peu, je sais pas, c'est hyper bizarre dans ma tête, mais en tout cas, merci. Ça rassemble plein de monde, cet espace.
L'idée d'ouvrir un peu, de découvrir les gens, vraiment. C'est toujours ce qui manquait dans les podcasts, quand j'écoutais, moi, quand j'en écoute, je me dis, putain, mais ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'il fait, c'est qui c'est. Et comment il pense, et c'est quoi sa philosophie, sa vision du monde, son regard sur les choses, pour pouvoir le apprendre, le modéliser, et on se rend compte qu'en final, il y a beaucoup de points communs, que tout le monde fait à peu près la même chose dans cette façon de voir les choses. Et enfin, ceux qui s'en sortent, ceux qui réussissent à faire des trucs et tout ça, je pense qu'il y a un vrai truc à modéliser à cet endroit-là.
Ouais, absolument. Je suis d'accord.
Toujours un plaisir d'échanger avec toi.
Ouais, c'était trop bien.
On arrête là. Et donc, merci à toutes et à tous d'avoir écouté. À bientôt. Des gros bisous, Stéphanie. Et à très vite.
Merci.